Je vous invite, sans plus tarder, à lire avec moi le psaume 80. Il est écrit au chef des chantres, sur les lits lyriques d'Azaph. Psaume. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau paré dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel, Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations, tu l'as plantée, tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre. Et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent, le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture? Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face. Et nous serons sauvés. Prions. Notre Père, merci de placer devant nous ce texte ce matin. Permets-nous d'y réfléchir ensemble et d'en être touchés, car c'est la parole de Christ. Amen. Ici, il s'agit d'une prière, Azaph, un psaume. Dans les psaumes, il y a souvent des supplications, des louanges, des intercessions. Et là, il y a un cri du cœur. Azaph prie Dieu de tout son être. Il faut dire que le contexte d'Israël est un contexte de désolation, de détresse, de sécheresse même spirituelle. Et si vous regardez avec moi, du même auteur Azaph, le psaume 119, il est écrit au verset 1, « Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton saint temple, elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre, elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre, elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem, il n'y a eu personne pour les enterrer. » Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie, de risée pour ceux qui nous entourent. Et un petit peu plus loin, au verset 9, il est écrit « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. » Nous qui lisons les Écritures, et notamment l'Ancien Testament, il est clair que dans l'Ancien Testament, Israël, lorsqu'il s'éloignait, ce peuple s'éloignait de Dieu, Dieu envoyait des ennemis. Et jusqu'à ce que, justement, il y ait eu plusieurs diasporas, déportations, où le peuple d'Israël a été envahi par les Assyriens, pris en otage et éloigné de ce pays riche où coule le lait et le miel, pourtant pays promis qui avait été donné à Israël. C'est un temps de détresse. C'est un temps d'épreuve, c'est un temps où le psalmiste ne trouve finalement la paix de Dieu dans son cœur que d'exprimer une prière. Dans le psaume 80, contrairement au psaume 79, il n'est pas tellement question de la faute d'Israël, mais elle est tellement sous-entendue, parce que châtié finalement, mais il y a un cri de l'homme de Dieu qui se tourne vers Dieu et qui a une prière comme si Dieu ne pouvait pas ne pas exaucer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie où vous avez fait une telle prière, face peut-être à une désolation, face à un péché commis, face à un éloignement de l'Éternel, face à une sécheresse spirituelle où les ennemis, et nos ennemis sont bien connus, la chair, le moi, le monde et le diable lui-même, prend le dessus sur nous. Et nous nous sommes adressés à Dieu et nous lui avons dit notamment ce mot qui est le mot-clé de ce psaume, « Relève-nous ». Quand il y a péché, quand il y a éloignement de Dieu, quand il n'y a plus de prospérité spirituelle, et même en Israël, on peut dire prospérité matérielle, qui était une bénédiction de Dieu, alors il est temps de s'adresser à Dieu et de demander à Dieu de nous relever parce qu'il y a faiblesse, il y a léthargie, il y a sommeil, pour pas dire mort spirituelle. Et le cri du psalmiste, c'est « Relève-nous ». Et dans le mot hébreu, « shub », ça signifie « retourner, revenir, être restauré ». Et même, il y a l'idée de repentance. De repentance. Le peuple était dans une condition où il avait besoin de revenir à Dieu. Et c'est un homme de Dieu qui intercède pour le peuple. Je ne sais même pas si tout le peuple était conscient de cela. Mais il y a un homme de Dieu qui est conscient du besoin d'intervention divine. Et la question peut-être que le Seigneur nous pose ce matin dans sa grâce est celle-ci. Avez-vous besoin de revenir à Dieu? Y a-t-il un domaine dans votre vie où il y a éloignement, où il y a sécheresse, où il y a abandon de l'Éternel, où il n'y a plus la bénédiction de Dieu et vous avez soif de revenir à Dieu? Parce que Dieu est Dieu. Comment allez-vous faire? Comment allez-vous faire et pourquoi allez-vous le faire? Eh bien, non seulement l'expression « relève-nous » est plusieurs fois mentionnée dans ce texte, trois fois, mais il y a une certaine poésie dont on a parlé d'ailleurs au cadre de cours formation biblique de l'Alliance, une certaine poésie, un rythme qui arrive ici comme un refrain qui est le verset 4, « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés ». On le retrouve un petit peu plus loin dans le texte au verset 8, « Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés ». Et le psaume se termine exactement de la même façon, verset 20, « Dieu éternel des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés ». C'est comme un refrain qui vient dans le cœur et qui est la composition ici poétique de ce psaume. En fait, ce qui est frappant dans ce texte, c'est que s'il y a une prise de conscience d'un moment d'épreuve, de sécheresse spirituelle, d'un besoin de désolation, d'un besoin de retour vers le Seigneur, d'où me viendra le secours, disait le psalmiste. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il n'y a qu'une seule solution lorsqu'on est éloigné de Dieu, c'est de demander l'intervention de Dieu parce qu'il n'y en a pas d'autre possible pour nous relever. Est-ce que nous sommes conscients que seul Dieu lui-même peut intervenir pour relever ce qui est abattu, pour redresser ce qui est tordu, pour faire revenir la bénédiction, la joie de l'Éternel, qui notre force fasse peut-être à la tristesse de l'éloignement de Dieu? Alors un jour j'ai lu un livre traduit de l'anglais, il me semble, de William MacDonald, qui était « Retour vers le Père ». Et je me souviens avoir lu où il y avait la description du chrétien rétrograde, qui était tombé soit dans l'adultère, soit dans l'alcoolisme, soit dans la drogue, soit dans les affaires tellement plus importantes que Dieu, qu'on oublie Dieu, on cesse de lire la Bible, on cesse de venir à l'église, on cesse d'avoir la communion avec les frères et les sœurs. Et ce besoin pour le peuple de Dieu et pour certains croyants de retourner à Dieu, à leur Créateur de tout leur cœur, afin que Dieu reste Dieu dans leur vie. En fait, ici, ce qui m'a touché dans ce psaume, c'est la façon avec laquelle le psalmiste Asaph s'adresse à son Dieu. Et vous pourriez peut-être, et chacun de nous peut-être, pourrions-nous mettre notre prénom à la place d'Asaph. Mais Asaph, dans ce texte ici, je crois qu'il est imprégné de la présence de Dieu. Je crois qu'il voit Dieu, c'est un homme qui est en communion avec Dieu. Et il s'adresse à Dieu avec beaucoup de foi. Et je pense même que, oh, je le dis de suite parce que c'est tellement beau, que sa vision de Dieu, de la restauration d'Israël, est même devenue à la fin de son psaume, dans le cœur, en communion avec Dieu prophétique. Et il a la vision d'un Dieu qui est celui qui est le réparateur des brèches, celui qui va pouvoir donner cette force à Israël de revenir vers Dieu et d'avoir son pays restauré, et évidemment aussi le temple, le culte de Dieu restauré. Il s'adresse à Dieu comme étant le berger d'Israël, et vous savez, c'est tout à fait, c'est pas souvent dans les psaumes qu'on voit Dieu nommé comme le berger. Et je crois que ici le psalmiste a réalisé que vraiment c'est Dieu comme berger dont le peuple a besoin. Vous avez goûté que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous avez goûté que Dieu est un berger. Eh bien, c'est un berger parce qu'il nourrit, il abreuve ses brebis, les protège, les porte dans ses bras avec soin et tendresse, il les console, les âmes abattues, il les relève. Notre berger prend soin de nous. Notre berger nous protège des adversaires. Et c'est sous ce titre-là que le psalmiste réalise que le peuple a besoin de se remettre sous le bâton et la houlette du Seigneur, sous le bon berger d'Israël, et finalement que c'est lui le bon berger qui va les réunir comme troupeaux vu qu'ils sont dispersés. Et ensuite, ce qui m'a frappé en analysant le texte, c'est qu'il dit « Berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau ». Vous avez souvent vu ça dans l'Ancien Testament, Dieu qui conduit Joseph, alors Joseph c'est Israël, mais Joseph, pourquoi Joseph? Mais Joseph était un homme qui avait connu beaucoup de détresse, qui avait connu beaucoup de difficultés, d'épreuves. Et le berger d'Israël, c'est le berger de Joseph qui a trouvé une issue à ses problèmes. Ainsi, le psalmiste s'adresse à Dieu comme étant le berger d'Israël, le berger de Joseph, celui qui a sorti Joseph de la détresse, celui qui l'a fait sortir de prison, qui l'a justifié et qui finalement, face à ses ennemis, aux injustices subies, a été élevé en son temps. Je pense que là, il y a une entraille, si je peux m'exprimer ainsi, une fibre très intime que le psalmiste veut faire en quelque sorte vibrer dans le cœur de Dieu. Toi, tu es le berger d'Israël, tu es le berger de Joseph. Écoute, prête l'oreille. Aussi, il est écrit « qui est assis sur les chérubins ». Alors peut-être qu'il y a une explication à donner ici. Les chérubins, c'était deux anges qui avaient été sculptés et placés à même le propitiatoire, qui était le couvercle du tabernacle, placé toujours dans le lieu très saint, dans l'Ancien Testament. Il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, et dans le lieu très saint, il y avait l'arche. Et c'est là où, par exemple, le souverain sacrificateur entrait une fois par an pour faire l'expiation du peuple. Donc, c'était un endroit où Dieu, par la purification, rendait propice, d'où le mot propitiatoire, le peuple, il se rendait propice au peuple, et le peuple propice à Dieu sur la base du sang. Et vous connaissez l'expression de Yom Kippour, le pardon d'Israël, le grand pardon demandé du temps d'Israël, de sa vie active et spirituelle. Une fois par an, le sacrificateur entrait et demandait le pardon du péché du peuple, le grand pardon, le Yom Kippour, sur la base du sang. Donc là, c'est Dieu qui règne, qui est assis. Assis, ça donne l'impression d'être au repos, mais assis parce que, voilà, la purification, sa colère est apaisée parce qu'il y a la purification du péché. Mais aussi, c'était l'endroit où la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu, se présentait dans le tabernacle. la gloire de Dieu qui est synonyme de sa puissance, mais aussi de sa sainteté et de sa présence. Autrement dit, le psalmiste ici dit « Toi qui es tout puissant, toi qui es glorieux, toi qui es présent, toi qui accordes le pardon et la purification, écoute, ô Dieu d'Israël, berger d'Israël. » Est-ce qu'Israël avait vraiment besoin de retrouver ce berger, cette gloire et ce Dieu assis sur les chérubins? Ben oui, ils avaient besoin de retrouver cette gloire, la présence de Dieu qui s'était éloignée. Le temple avait, dans ce cas-là, c'était le temple avait été abandonné et détruit en partie. Ils avaient besoin de retrouver la direction, parce que la Shekhinah conduisait le peuple, vous le savez, et aussi d'être pardonné sur la base de la purification. Aussi, il s'adresse à Dieu, au Dieu, et c'est le mot Elohim au pluriel, qui est la Trinité, il n'y a pas de hasard, si ce nom est au pluriel, c'est le Dieu de la création. Le croyant doit parfois revenir aux choses de base. C'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Mon Dieu est Dieu, tout-puissant. Mon Dieu est celui qui a fait les cieux et la terre, et c'est dans cette vision que le psalmiste s'adresse à Dieu, à ce Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui a donc toute puissance pour intervenir dans la vie d'Israël. Aussi, il est écrit « éternel », « Yahweh », le mot qui veut dire « celui qui est », ça veut dire non seulement c'est le nom que Dieu a révélé à Moïse, mais ça veut dire « celui qui est éternel ». Je suis celui qui suis. Ça veut dire qu'il connaît le passé, le présent et l'avenir, et c'est celui qui peut donner la vision de l'avenir et réparer le présent. Il connaît parfaitement le passé, et dans le passé, Yahweh est souvent intervenu en faveur d'Israël. Puis finalement, il y a deux autres expressions, Dieu des armées ou éternel des armées. Il y avait Sabaoth, qui signifie ici, en ce nom-là, qui nous décrit la toute-puissance du Seigneur, qui avait accordé à Israël si souvent la victoire de ses ennemis, qui avait permis notamment à Israël de conquérir le pays de Canaan, qui était un pays extrêmement occulte, où les hommes et les femmes, vous vous rendez compte, faisaient passer les enfants au feu pour les sacrifier à Moloch. Et Dieu avait donné une victoire sur ce monde occulte par la puissance de l'armée d'Israël. Mais comme il avait été écrit si souvent, la victoire, le cheval est préparé pour la victoire, pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui avait donné cette victoire. Regardez comment Josué avait vaincu notamment Jéricho, etc. Eh bien, c'est à ce Dieu que le psalmiste s'adresse, parce que Israël a été vaincu par les ennemis. Et d'ailleurs, c'était dans le plan de Dieu qu'il châtierait Israël quand le peuple se détournait de Dieu. Le temps des juges nous l'a tellement bien exprimé, expliqué que quand le peuple de Dieu s'éloignait de son sauveur et créateur, eh bien les ennemis les envahissaient et ils criaient vers Dieu jusqu'à la repentance. Et Dieu suscitait un juge, un libérateur, un sauveur. Et le peuple, après avoir vécu un réveil, malheureusement retombé dans ce cycle d'abandon de Dieu, d'apostasie, d'éloignement de Dieu. C'est un terme qui est souvent employé dans les moments de détresse, éternel des armées. Ça se trouve par exemple 80 fois dans le livre de Jérémie. Mais à un moment donné, Dieu dit « Sachez que je suis Dieu ». Et quand le peuple n'a cessé d'abandonner, de pécher, Dieu les a livrés à leur juste rétribution. Il arrive parfois, frères et sœurs, que Dieu livre le croyant au malin. Délivre-nous du malin, ne nous induis pas en tentation. Dieu peut laisser le croyant qu'il abandonne entre les mains de l'adversaire, parce que livré peut-être à ses sens réprouvés, ou même livré au malin parce qu'il a abandonné Dieu. Ça nous fait réfléchir cela. Ça nous fait réfléchir. Est-ce que vous avez abandonné Dieu dans un domaine de votre vie? Quelles sont les requêtes du psalmiste? Alors, puisqu'on veut retourner vers Dieu, quelles sont les requêtes du psalmiste? Ici, j'en ai noté 16. Et je vous invite à regarder avec moi le texte à nouveau, et on va regarder ces expressions qui sont des cris du cœur, mais très précises. La première chose que le psalmiste dit, c'est « prête l'oreille ». Mais vous ne croyez pas que Dieu écoute? Mais pourquoi il dit prête l'oreille? Parce qu'il veut s'assurer que Dieu écoute vraiment. Parce que c'est vrai que parfois nos prières ne dépassent pas le plafond de notre appartement ou notre maison, comme le plafond devient d'airain, parce que peut-être il y a eu justement une brouille. Ah, c'est pas Dieu qui se brouille avec nous, c'est nous qui parfois nous brouillons avec lui parce que nous éloignons de lui. Alors ce besoin d'être écouté, mais le croyant qui a reconnu qu'il est tombé, qui veut se relever, il crie vers Dieu. Et c'est comme s'il veut absolument que Dieu l'écoute, comme si Dieu ne pouvait pas ne pas l'écouter. Puis il crie, le psalmiste au verset 2, toujours pareil, le besoin d'intervention divine. Celui qui est dans la sécheresse spirituelle ou le désert, ou celui qui est éloigné de Dieu, il est comme quelque part la biche qui soupire après des eaux, il veut revenir à ce qui est rafraîchissant, il veut que Dieu paraisse à nouveau. Parce que le croyant loin de Dieu, il ne sent plus la présence de Dieu. Où es-tu, Seigneur ? Réveille ta force, un besoin de délivrance. Viens à notre secours, un besoin d'aide urgente. Relève-nous, un besoin de restauration, mais qui inclut la repentance. J'ai déjà mentionné, fais briller ta face, le besoin de lumière, de voir à nouveau la gloire de Dieu. Verset 15, reviens donc, un besoin absolu que Dieu intervienne comme il est intervenu dans le passé, qu'il revienne pour intervenir dans le présent. Fais-nous revivre, un besoin de retrouver la vie, une vie spirituelle en abondance, un besoin de réveil. Relève-nous, fais briller ta face. C'est encore écrit à la fin, au verset 20. Voyez toutes ces désirs profonds dans le cœur du psalmiste. Tôt ou tard, ou plus ou moins, chaque croyant, malheureusement, et c'est pas normal, mais dans un sens, Dieu le savait, un croyant peut tomber, peut se détourner de Dieu. Pour différentes raisons, il y a différentes sources d'épreuves qui peuvent devenir plus difficiles. Et parfois, le chrétien peut être tenté de s'éloigner de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous éloigner de Dieu et de porter la tristesse de Dieu en vous? Parce que, étant donné que Dieu, on s'est éloigné de Dieu, alors la tristesse de Dieu s'empare des âmes, de nos âmes, et finalement, nous crions vers Dieu pour revenir vers lui parce que nous avons besoin de retrouver cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. C'est pour ça que l'apôtre Jean, plein d'amour, a écrit dans son épître « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » Est-ce que vous êtes certain que dans le domaine où vous avez peut-être abandonné Dieu, vous ne devriez pas continuez dans ce sens, mais allez vers Dieu et confessez votre péché. Il y a beaucoup de joie à retrouver l'amour de Dieu et son pardon. Et dans ce psaume ici, comme dans d'autres passages de l'Ancien Testament, Israël est comparé à une vigne. Vous savez, Israël est comparé notamment à un olivier, à une vigne, à un troupeau, à la maison de Dieu. Et ici, le psalmiste fait l'historique un peu d'Israël. Vous savez, en lisant le psaume 80, on a un peu, en partie du moins, l'histoire d'Israël. Alors je vous invite, allez, un petit effort, frères et sœurs bien-aimés. Ésaïe. Ésaïe 5, verset 7. Ésaïe, chapitre 5, et verset 7. Hein, après les psaumes, voilà, les proverbes. Ésaïe. Ésaïe, chapitre 5, verset 7. Il est écrit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de justice. Il est clair ici que Dieu appelle Israël sa vigne, et donc qu'il est le vigneron. Certainement, ça vous fait penser à un texte du Nouveau Testament, on y viendra. Mais quelle est cette vigne? Comment est-elle décrite? Eh bien, tout d'abord, ça résume un petit peu l'histoire d'Israël. Verset 9, c'était une vigne arrachée. Il a fallu que Dieu aille en Égypte avec toute sa puissance, quoi, il est omniprésent, mais visiter le peuple d'Israël qui criait pendant ces 400 ans pour que Dieu les délivre de la puissance occulte de Pharaon et les faire sortir à bras étendus de l'esclavage en Égypte. C'était une vigne, il est écrit ici, arrachée d'Égypte. Et cela montre comment Dieu avait été puissant pour arracher Israël de cet esclavage, de la puissance de Pharaon. Et puis Dieu l'avait planté. Attendez, quand Dieu plante quelque chose, je pense qu'il plante des racines assez fortes. Il l'avait planté parce qu'il avait chassé les nations. C'est Dieu qui avait accordé la victoire à Israël et c'est Dieu qui avait permis qu'il y ait de la place pour planter cette vigne parce qu'il était dans le plan de Dieu qu'Israël fasse la conquête du pays de Canaan en jugement contre ces nations occultes et habite là et règne dans ce pays en abondance. Alors il les avait plantés là. Et puis, il leur avait accordé de la place pour prospérer. Des fois, vous savez, les jardins, ou peu importe, manquent de place pour pouvoir s'étendre et avoir plus de récoltes. Et bien là, Dieu avait fait de la place, et puis il avait permis que la vigne prospère. Évidemment, c'est Israël. Et s'étende au large, avec beauté, fierté. Et cette vigne était bénie, elle portait du fruit, et du fruit en abondance. Ça vous fait pas penser à Jean 15 ? Je suis le cep, mon père est le vigneron, et vous êtes les sarments. La Bible dit que le croyant est comme un sarment, que l'Église est une vigne aussi, que l'Église est un troupeau, que l'Église est un édifice comme Israël, et que notre bon berger prend soin de nous, le troupeau, et que le vigneron Dieu, le Père, prend soin de nous, le cep. Comment ? Par le fait que nous sommes comparés à des sarments dans lesquels coule la sève. Mais la sève coule non pas du sarment vers le cep, c'est évident, mais du cep vers les sarments. Donc Jean 15 nous apprend que si nous demeurons en Christ, eh bien nous allons porter du fruit, nous allons porter encore plus de fruits, nous dit Jean 15, et finalement beaucoup de fruits. Vous savez, Dieu s'attendait à avoir du fruit en Israël, comme Dieu s'attend à avoir le fruit de la vigne du croyant, de la vigne du Seigneur qu'est l'Église. Est-ce que vraiment la sève coule dans votre cœur ? Est-ce que vraiment la sève coule dans notre Église ? Par la grâce de Dieu, oui. Mais continuons, demeurons en Christ afin que nous portions encore plus de fruits et beaucoup de fruits. Alors il y a une question ici qui vient à l'esprit du psalmiste et qui s'adresse à Dieu. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures de cette vigne ? Elle était si abondante et tout d'un coup elle n'est plus protégée. Donc les ennemis sont venus. Et il est question ici, vous l'avez vu, du sanglier qui la ronge, de les bêtes des champs qui en font leur pâture. C'est finalement, alors qu'elle était bénie en abondance, elle est sans protection. Elle est dépouillée, elle est rongée, pour utiliser le terme ici, elle est laissée en pâture. Et ce peuple qui était si béni et prospère, maintenant, il est dépouillé, démuni, sans force et malheureux. Et je n'ai pas pu m'empêcher, en préparant hier soir ce texte à un verset, qui est assez saisissant, en Jérémie 2, verset 19, je vous le lis, qui dit « Ta méchanceté te châtiera. » Et c'est Dieu qui parle en Israël, hein, à des croyants. « Et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Je ne sais pas vous, mais quand on lit ce verset, on a les cheveux qui s'hérissent et on a la crainte de Dieu. Tu verras, tu sauras et tu verras que c'est une chose amère que d'abandonner l'Éternel ton Dieu. Et parfois, j'ai vu des croyants s'éloigner de Dieu, tomber dans le péché, tomber dans l'amour de l'argent, dans des péchés divers et devenir bien malheureux. Jusqu'à ce que leur santé soit atteinte. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il récoltera. Et nous, les enfants de Dieu, même si nous sommes protégés, nous sommes gardés, nous sommes l'objet tellement de l'amour tendre du Père. Il n'empêche pas moins que, selon l'Épître aux Hébreux, si nous nous éloignons de Dieu, eh bien Dieu nous châtie. C'est la preuve, justement, que nous sommes ses enfants. Vous savez ce qui est frappant dans le bois de la vigne ? Vous êtes de la région ici, quand même, certains. Qu'est-ce qu'on fait avec les sarments, une fois qu'ils sont coupés ? Qu'est-ce qu'on fait avec des ceps de vigne ? Rien du tout. Vous ne pouvez pas utiliser le bois de la vigne pour faire du bois de construction, du bois de décoration, du bois de etc. La seule chose qui rend utile une fois que le sarment a été coupé, c'est de le brûler. Bon, quelques-uns ici dans la région, nous savons faire des grillades avec les sarments, c'est très bon. Mais vous savez, c'est un bois qui peut être très fructueux, mais une fois coupé, parce qu'inutile, il ne sert qu'à être brûlé. Il ne sert qu'à être brûlé. La Bible dit ceci, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, il brûle. » Ça montre son inutilité. Nous n'allons pas aller plus loin, seulement dire dans ce domaine-là que nous croyons que le croyant ne perd pas le salut, mais il peut devenir très inutile comme le sarment qu'on jette au feu et qu'il n'y a plus d'autre raison d'être que d'être brûlé. Mais c'est un avertissement aussi. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Dans la vie, il y a des portes qui sont entrouvertes, qui ne sont pas fermées. Et une porte entrouverte, il suffit de peu pour l'ouvrir plus grande et qu'elle soit grande ouverte. C'est pareil parfois avec le péché. Si la porte est fermée au péché, il n'entre pas. Mais si la porte est entrouverte, il suffit juste d'un peu plus de pression pour qu'il entre. En fait, dire ceci, c'est que le chrétien qui s'éloigne de Dieu, eh bien, il devient triste et malheureux. Puis, quelle perte de témoignage dans le monde. Et j'espère qu'on ne veut pas vivre ça. Hein. Mais quelle tristesse. Il perd la joie de son salut. Il perd la joie de la communion avec son Dieu, il perd la paix, il perd la joie de témoigner, il perd la joie d'aller à l'église, la joie de rencontrer des frères et des sœurs. Il peut devenir très critique, très acerbe, très amer, et que Dieu nous en préserve. Hein. Vous avez compris, le message de ce matin, c'est un message pour nous d'avertissement, justement de ne pas nous éloigner de Dieu, mais s'il y avait un domaine où on s'était éloigné, de revenir sans plus tarder à Dieu qui, lui, veut intervenir. Mais dans ce psaume, pour terminer, dans ce psaume, il y a quelque chose qui est assez anecdotique, puisqu'au verset 16, il est écrit, on se demande pourquoi le psalmiste dit ça, « Protège que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. » Eh bien, le fils que tu t'es choisi, c'est Israël. Notamment, Dieu a dit à Osée, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, une prophétie qui a une double application, Israël qui est sorti d'Égypte et Jésus-Christ qui est sorti d'Égypte. Voyez-vous ici, mais quand on va un petit peu plus loin, au verset 18, il dit que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Et là, on ne peut pas s'empêcher de comprendre que le fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Le fils de l'homme, le fils de Dieu, Jésus-Christ, dans les évangiles, est largement mentionné comme le fils de l'homme. Voyez-vous, c'est comme si le psalmiste, dans sa vision de Dieu, veut voir Dieu rétablir, restaurer le peuple d'Israël en rappelant, si je peux dire ainsi, à Dieu, mais Israël est ton fils. Mais la vraie solution, et ça, c'est une vision prophétique, c'est merveilleux, c'est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui devait, lui, être planté sur la terre un jour, mais planté aussi à la croix, littéralement sur terre. Et alors, l'exaucement de la prière ne se fait pas tarder, et ici, le psalmiste dit au moins trois conséquences de l'intervention du Fils de l'homme. Nous ne nous éloignerons plus de toi. Quand on est dans la nouvelle alliance, on devrait être beaucoup plus proche de Christ et de Dieu à cause de cette nouvelle alliance que Dieu nous a donnée, un pardon éternel. Et puis, il est écrit ici de le fait que la prière serait restaurée. Nous invoquerons ton nom, fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Le retour à la prière. Et puis, finalement, fais briller ta face et nous serons sauvés. La délivrance. La victoire sur le péché, le monde, la chair et le diable. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui est souvent mal interprété, c'est celui de l'enfant prodigue. On dit ça, c'est le cas typique d'un pécheur qui connaît pas Dieu et qui finalement vit dans le péché, pour parler d'aujourd'hui, les boîtes de nuit, toutes sortes de perversités, qui s'en va perdre ses biens et qui finalement perd toute valeur et qui vit dans la débauche. Hein, j'ai dit boîte de nuit, mais il y a plus que les boîtes de nuit pour la débauche, on se comprend. Et puis, on oublie de dire une chose, qui était un enfant de la maison. Qui c'est qu'il avait comme père ? Ben, c'était un enfant. Mais un enfant qui avait décidé de quitter la maison pour vivre sa vie. Et le croyant, parfois, il dit, écoute Seigneur, là, un peu de repos pour moi, je vais vivre ma vie. Mais ça, c'est dangereux. Parce que quand on veut vivre sa vie, et qu'on ne laisse plus Jésus-Christ au contrôle de sa vie, et au trône de sa vie, on perd contrôle tôt ou tard. Et il y a des incidents, des accidents, parce que Christ veut être le maître. Et l'enfant prodigue est un enfant de la maison, il est revenu avec le père, vers le père. Et celui de la maison, qui semblait être toujours bien, il n'a pas exercé la miséricorde. Il y a toujours place pour le croyant repentir, à revenir à la maison de Dieu. Nous devons exercer le pardon parmi nous, mais nous devons exhorter. Nous devons nous exhorter afin que personne d'entre nous ne soit trouvé avec un cœur méchant et incrédule au point d'abandonner Dieu. Alors, en conclusion, disons ceci. Chaque enfant de Dieu est tenté, peut trébucher et même tomber. Il y a parfois des chutes qui font mal dans la vie de certains chrétiens et qui ont du mal à s'en relever. Et certains, excusez, je le dis, mais c'est avec crainte, ne s'en relèvent pas parce qu'ils ne retournent pas vers Dieu. Mais avant d'arriver à tel cas, y a-t-il un domaine, vous souvenez la question au début de ce message, y a-t-il un domaine dans votre vie où vous avez besoin de revenir vers Dieu? Pensez-y. Je vous invite, comme Asaph, à plaider devant Dieu. Ici, c'est un plaidoyer dans ce texte. Envers Dieu, son secours, sa grâce, sa bonté, sa miséricorde. Et j'ajouterai, nous qui sommes des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, de revenir à la croix, aux pieds du Seigneur, pour être lavés, pour être purifiés, pour être sanctifiés, pour retrouver la pleine bénédiction de Dieu dans votre vie. C'est à la croix qu'en rencontrant Dieu, nous avons été sauvés. C'est à la croix aussi que nous demeurons dans sa grâce, son pardon, sa vie. C'est là où Dieu a fait de nous ses enfants et il nous a fait ses enfants et a fait habiter le Saint-Esprit à nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Mais nous pouvons toujours revenir à Dieu pour retrouver sa gloire. Parce que nous pouvons éteindre le Saint-Esprit, nous pouvons l'attrister, nous pouvons lui résister, afin de faire sa volonté, non pas toutefois la mienne, a dit Jésus-Christ au Jardin de Gethsémané, mais la tienne, afin de faire sa volonté, non pas la nôtre, mais la sienne. Est-ce que vous êtes certain que votre vie est en règle avec Dieu, que tous les domaines de votre vie sont en règle avec Dieu? Si tel n'était pas le cas, lisez le psaume 80, ayez confiance en ce Dieu si miséricordieux, mais aussi qui veut que ses enfants demeurent proches de lui. Prions. Ô notre Dieu, notre Père, merci de ta présence parmi nous ce matin. Merci de nous garder humbles, de nous garder proches de toi. Et s'il y avait quelque chose dans nos vies qui nous éloigne de toi, Seigneur, viens à notre secours, aujourd'hui même. Seigneur, nous avons besoin de toi. Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aide-nous, Seigneur, secours-nous, protège-nous, délivre-nous, garde-nous en toi. Nous te le prions, dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et s'il y avait quelqu'un ici ce matin qui dit « Priez pour moi », je voudrais revenir à Jésus, à la croix. Alors vous pouvez peut-être lever la main, le signaler que je prie pour vous, mais ou dans votre cœur. L'essentiel, c'est d'aller vers Dieu. C'est vers Dieu que vous devez aller. C'est vers Dieu que vous devez aller. Mais si c'est le cas, revenez vers le Seigneur. Seigneur Jésus, merci de nous accompagner tout au long de cette journée encore, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.